L'entrepreneuriat fait beaucoup rêver de nos jours. Il est synonyme d'accomplissement personnel, voire de réussite, mais aussi invite à sortir de sa zone de confort. Se lancer dans cette jungle amène forcément son lot de questions, dont la principale, suis-je réellement fait pour entreprendre? Aujourd'hui, Lina Cham, jeune entrepreneur et slasheuse, nous donne quelques clés autour de ce sujet. En 2019, elle a autopublié son premier roman pour jeunes adultes, L'autre visage, et plus récemment, Lina a également créé son programme Potentiel et Avenir destiné au développement personnel des jeunes de 15 à 25 ans. Dans cet épisode du Déclic, Lina nous raconte son parcours et ses motivations pour entreprendre. Elle nous fait part également de l'introspection qu'elle a su mettre en place et les questions clés à se poser avant de se lancer. Vous êtes sur le Déclic et je vous souhaite une bonne écoute. Merci de participer au podcast Le Déclic et de témoigner aujourd'hui.
Bonjour Océane, merci à toi pour l'invitation.
On va brièvement parler de ce que tu es. C'est une première question que je t'avais posée quand on s'est reparlé la semaine dernière. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement qu'être slasheuse ?
En fait, ça sous-entend tout simplement lorsqu'on a plusieurs activités et qu'effectivement, c'est un peu difficile de définir un seul terme. Donc c'est on va dire une sorte de concept où c'est une personne qui exerce plusieurs activités différentes.
Et justement, toutes ces activités, moi j'ai envie qu'on les évoque plus ou moins pendant ce podcast forcément. Moi la première chose qui m'a surpris, c'est l'auto-édition de ton livre.
Oui.
Et tu es également, tu as écrit un programme éducatif.
Potentiel et Avenir, c'est un programme d'atelier. On peut dire que c'est un programme pédagogique, puisque le but c'est vraiment de former sur tout ce qui tourne autour du savoir-être, mais aussi du développement créatif.
Pour un peu résumer ce que tu fais, Lina, c'est quand même si tu fais plusieurs choses avec différents moyens, comme des livres ou des formations, il y a quand même un fil directeur dans tout ce que tu fais, c'est former, c'est aider les jeunes et leur donner des clés en main.
Effectivement, ouais. Dans ce que je fais, pour moi, c'est important, en fait. Il y a la quête de sens personnel. Donc, c'est vraiment cette notion d'accomplissement personnel, mais à viser pour les autres, c'est-à-dire d'impacter positivement de quelque manière que ce soit. D'ailleurs, le livre, l'idée, c'était de redonner goût à la lecture aux jeunes qui n'aiment pas lire ou qui ont des forts a priori à cause de ce qu'ils ont étudié à l'école, donc qui gardent pas une bonne expérience de la littérature, alors que moi, je suis convaincue que forcément, ça s'adresse à tout le monde et qu'il existe tellement une variété, tu vois, de livres que finalement tout le monde peut y trouver son compte. Et les ateliers, c'est vraiment, vraiment là sur la connaissance de soi, sur vraiment trouver l'épanouissement personnel. Donc, pour moi, c'est vraiment fondamental. Et l'idée, c'est vraiment de donner ces outils-là aux jeunes parce que nous, on apprend par nous-mêmes. Aujourd'hui, on a 25, 30 ans. Mais entre 15 et 25 ans, au final, c'est ce qu'on ne nous apprend pas à l'école. Donc, tout ce qui est autour du savoir-être.
J'avais envie de revenir vite fait sur ton livre qui était l'autre, qui s'appelle L'autre visage.
C'est ça.
Et donc, qui est un roman pour les jeunes, quand tu viens de le dire, qui est pour les 15-25 ans. Donc, si j'ai résumé, tu t'es lancée en 2018. Donc, en l'espace de 2 ans, tu as écrit un livre et tu as mis en place un programme pour les jeunes.
Ouais, c'est ça. En fait, je travaille un peu en parallèle. C'est-à-dire que mon premier objectif dans l'entrepreneuriat, c'était la publication de mon roman. Donc, depuis 2018, on va dire, j'ai travaillé dessus. Mais ça m'a pris un an pour le publier, donc il est sorti il y a pile un an, donc en juin 2019. Et en parallèle, j'ai développé ce programme d'atelier où l'idée c'était de faire des premiers ateliers tests pour voir justement si ça avait un impact ou pas, puisque moi je me base vraiment sur les outils moi qui m'ont aidé, mais l'idée c'était de voir si vraiment ça a aidé d'autres jeunes. Et vu les premiers résultats qui étaient très optimistes, très positifs, j'ai décidé de vraiment d'avancer là-dedans parce que c'est vraiment crucial. Il faut instaurer ça, que ce soit à l'école, enfin un peu les méthodes, je sais pas si tu connais un peu, mais tout ce qui est Montessori, méthode Freinet. Alors ça a été mis en avant il y a quelques années parce que bah justement on va dire le système scolaire classique n'est pas du tout adapté aujourd'hui aux nouvelles générations. Donc tu vois, l'idée c'est vraiment via des exercices collectifs, individuels, des questionnements, etc., d'amener le jeune en fait à mieux se connaître pour mieux avancer dans sa vie, pour savoir quelle direction il souhaite prendre. Et donc casser tout ce qui est ces notions de barrières limitantes, de peur, même d'améliorer la confiance en soi, l'estime de soi, le regard des autres, tu vois, à cet âge-là, puisqu'entre 15 et 20 ans notamment, c'est hyper important.
Je pense qu'on en rediscutera tout à l'heure de ce que tu fais et de la valeur que ton travail a. Mais je pense que en fait, ça fait tout son sens, ce que tu fais, et on en reviendra. J'ai toujours pour habitude de demander à mon invité un petit retour en arrière. Moi, j'aime bien qu'on raconte un peu les premiers pas. Et justement, il y a un métier qu'on pose souvent quand on est petit, qui parfois casse un peu la tête. C'est quel métier est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite?
Ça, c'est une bonne question. Souvenir d'enfance. C'est assez drôle parce que lorsque je devais être en primaire, alors il y avait deux métiers, je ne sais plus lequel je voulais faire en premier. Mais il y avait archéologue ou pompier. Rien à voir. Bon, pompier, on va pas se mentir, c'est pas resté très longtemps. Mais il y avait ce côté de voir un peu super-héros du quotidien, aider les autres et sauver des vies que je trouvais vraiment passionnant. Mais archéologue, alors c'est venu de plusieurs choses, tout simplement parce qu'avec ma mère, on regardait beaucoup, enfin j'aimais beaucoup regarder, tu sais, les reportages à l'époque, il y en avait vraiment de très bonne qualité sur tout ce qui était l'Égypte antique. Et d'ailleurs, bah, j'ai développé aussi vraiment cet intérêt pour l'art quand j'étais plus jeune, et à partir de là, bah, j'ai vraiment développé ça.
Forcément, on demande le métier quand on est petit, mais on demande aussi quelle profession tu veux faire, quelles études tu fais et quel choix de carrière était derrière ce parcours scolaire. Est-ce que tu pourrais résumer un peu c'était quoi avant, ou alors est-ce que l'entrepreneuriat c'était quelque chose qui était ancré en toi au fond et tu savais que...
Justement, moi c'est venu très tôt l'entrepreneuriat. En fait, si tu veux, depuis que je suis en primaire, donc j'avais ce loisir artistique de dessiner, d'écrire, etc. J'avais commencé par une bande dessinée quand j'étais vraiment enfant. Et en fait, à partir du collège, c'est vraiment là, donc je devais avoir 11-12 ans, que je commençais à conceptualiser, mais toujours dans le monde artistique. Ça veut dire que j'ai toujours voulu développer des métiers. Enfin, je me souviens, je gribouillais à l'époque sur du stylisme. J'avais créé ma marque. Enfin, c'était vraiment... Après, c'était toujours au format papier. Hein. C'était pas du concret, mais tu vois, il y avait ça. J'avais un carnet aussi d'idées et de projets que j'ai toujours eu après, que j'ai gardé. Il y avait aussi le côté architecture d'intérieur, enfin architecte qui me passionnait aussi. Tu vois, c'était toujours des métiers créatifs. Et l'entrepreneuriat, à ce moment-là, ça me trottait vraiment dans la tête parce que je me souviens de quelques émissions pareilles à l'époque qui étaient vraiment qualitatives, où c'était des enfants entrepreneurs. Et moi, ça m'inspirait vraiment à vouloir me lancer là-dedans. Je m'en rappellerai toujours. Mais il y avait ces peurs. Puis comme tu l'as souligné, il y avait ce côté où on se disait, bon, les études d'abord. Puis même, tu vois, quand t'as pas de ressources, quand t'es jeune, t'as de fortes croyances limitantes, notamment à cause du conditionnement social aussi et tout. Et je me disais, tu vois, c'était... En fait, ça restait toujours sur le papier. C'est-à-dire que vraiment, c'était une évasion, que ce soit l'écriture, architecture d'intérieur, enfin, design, stylisme, etc. Ça reste... Je gribouillais tout ça. Mais j'avais cette envie de devenir chef d'entreprise. Et c'est de cette manière, en fait, si tu veux, où j'ai poursuivi, du coup, mon parcours scolaire, tu me demandais, avec des études artistiques. Je me suis dit, il faut que je suive ma passion, ma voie, et donc j'ai fait des études artistiques. Et puis après, forcément, quand on est dans les études, on voit un peu plus loin. Il y avait plus l'aspect professionnel qui intervenait. Donc, du coup, je me disais, bon, poursuivre mes études le plus loin, pour moi, c'était vraiment important d'avoir à minima un master. Et donc voilà, j'ai poursuivi avec du marketing, de la com, toujours un petit aspect créatif, mais c'était beaucoup moins.
Quand tu as fait tes études de marketing communication, est-ce que du coup, dans ta tête, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose de très loin?
En fait, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2015, quand je suis rentrée en master, tu sais, en école de commerce, mon objectif premier, en fait, c'était donc d'avoir mon master, mais c'était aussi de me lancer dans mon projet. À ce moment-là, j'avais un projet de start-up et en fait, je me suis dit, bon, là, maintenant, mes études, enfin voilà, j'ai avancé, j'étais au niveau licence, donc déjà, tu vois, t'es un peu rassurée et puis en même temps, tu dis, bon, t'arrives presque à la fin de ton cursus, mais j'avais toujours, toujours vraiment ce truc de me dire, il faut que tu le fasses et vraiment, enfin, c'est quelque chose qui m'animait en fait. C'est-à-dire, pendant mon temps libre, je bossais dessus, vraiment, enfin, c'est, je sais pas comment le décrire, tu vois, mais je pense que c'est un peu, tu vois, la quête de sens. Moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'était vraiment ancré en moi, on va dire. Mais voilà, il y avait toujours cette sécurité de se dire, bon, il faut que tu ailles au bout de tes études, il faut, enfin, voilà. Il y avait les objectifs, voilà, sécuritaires qui intervenaient d'abord. Quand j'ai intégré, du coup, mon école de commerce, en parallèle, du coup, j'ai intégré l'incubateur de mon école. Et c'est là, si tu veux, où j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, enfin, à passer à l'action, on va dire, dans l'entrepreneuriat. Il s'est avéré que, voilà, ce projet, au final, au bout d'un an et demi, j'avais bossé dessus, un an et demi, deux ans, il a pas vu le jour. À la suite de ça, je me suis dit, bon, bah, tu vois, il y a, voilà, le côté sécuritaire, où je me suis dit, bon, dans le monde professionnel, voilà, il y avait le monde de l'entreprise, tu vois, où je me voyais un peu aussi bosser dans le marketing, à l'étranger. Enfin, voilà, moi, je me voyais vraiment, tu vois, genre à Dubaï et tout. À l'époque, ça m'attire beaucoup. Mais aujourd'hui, bon, honnêtement, c'est plus trop le cas. Mais voilà, il y avait ce côté-là aussi, tu vois. Donc, t'es un peu partagé entre deux chemins. Le chemin un peu sécuritaire, voie classique, on va dire, du cadre, jeune cadre dynamique. et à côté, il y avait, voilà, ce côté où j'étais toujours, l'art, ça me passionnait toujours. Je l'avais mis un peu en loisir. Mais voilà, j'essayais toujours de le faire intervenir, en fait, même quand je travaillais en entreprise, en alternance, dans mes stages, etc., de le faire intervenir de quelque manière que ce soit. Et à un moment donné, bah, tu te dis, le déclic, il est venu, en fait, voilà. Donc, quand j'ai eu cet échec par rapport à la première start-up, je me suis dit, bon, on va mettre ça un peu de côté. Et en fait, bah, ça revient, tu vois. C'est un peu comme si c'était en toi et ça te faisait coucou.
Effectivement, je pense que quand tu racontes, en tout cas comment tu es, tu as l'air d'être une personne, voilà, qui entreprend beaucoup, qui crée beaucoup, qui aime beaucoup ça. Et effectivement, je pense que c'est ancré en toi. Et je voudrais comprendre du coup pourquoi ton projet de start-up n'a pas vu le jour. Pour quelle cause?
Alors, en fait, parce que avec mon associé, en fait, on travaillait avec une agence, mais si tu veux, en gros, il y a eu un conflit d'intérêts. Enfin, ils ont pas respecté ce qu'ils devaient faire. Et en fait, nous, on voulait pas trop se faire arnaquer, tu vois. Donc, en fait, on a assuré nos arrières et on a préféré arrêter là. Donc, je te cache pas que ça nous a laissé un petit goût amer, même si avec mon associé, pour le coup, ça s'est très, très bien passé. Mais en tout cas, tu vois, avec le prestataire en question, c'était pas le cas. Et voilà, et surtout que c'est un projet sur lequel je travaillais depuis un an et demi. Et voilà, et le fait, bah, de devoir arrêter, ça te met une petite claque. Puis même, honnêtement, sur le moment, ça te dégoûte un peu de l'entrepreneuriat, tu te dis. Non, donc, et au final, tu vois, j'ai mis ça vite fait de côté une fois que j'étais diplômée. Et là, j'ai eu le déclic et je me suis dit, bon, en fait, tant que je me lance pas, mais vraiment d'aller au bout d'un projet, il y avait ce côté, tu vois, où je me disais, mais pourquoi j'ai plein d'idées et tout, mais j'arrive pas à aller au bout. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fait un vrai travail sur moi-même, où là, c'est à ce moment-là que je me suis beaucoup, beaucoup auto-formée pour comprendre la psychologie, pour comprendre comment on fonctionne, vraiment sur la connaissance de soi. Pour comprendre, je voulais vraiment, j'avais ce truc de comprendre pourquoi j'avais plein d'idées de projets qui étaient de très bonnes idées, mais je n'arrivais pas à leur donner vie, tu vois, à aller au bout.
Et c'était à cause de tes croyances limitantes ou de tes peurs, ou parce que tu pensais que le fait d'entreprendre, ça te mettait aussi en danger de façon financière, enfin, tu n'avais pas de sécurité, ou est-ce que tu as réussi à identifier pourquoi?
Ouais, exactement. Bah, en fait, c'est un peu des deux, c'est-à-dire c'est les croyances limitantes et les peurs. Et c'est ça qui bloque énormément de personnes, ça je le constate vraiment, même encore aujourd'hui, qui bloque énormément de personnes à ne pas se lancer, pas nécessairement dans l'entrepreneuriat, puisque c'est pas vraiment fait pour tout le monde, c'est une réalité, mais même des gens à se lancer dans leurs loisirs ou, tu vois, dans des choses qu'ils ont envie de faire dans leur quotidien qui aident à mieux se sentir, en fait. Et donc, moi, c'était la peur de l'échec, parce que justement, via cette expérience-là, ça m'avait un peu cassé. Et puis, voilà, j'avais peur de me relancer dans un truc et d'avoir l'échec. Il y a la peur aussi de se lancer. Enfin, c'est étrange à dire, mais la peur de se lancer, tu vois, c'est finalement de sortir sa zone de confort. Et tout le monde n'a pas les capacités à... En fait, pour moi, si tu veux, le process de sortir de sa zone de confort, ça vient après la première étape qui est de mieux se connaître pour savoir ce qu'on veut vraiment, tu vois. Du coup, bah, il y avait un peu des deux, les croyances limitantes aussi sur le fait que bah, forcément, j'avais pas un réseau énorme. Enfin voilà, tu vois, je viens d'un milieu modeste. Donc, pareil, l'aspect financier, j'avais pas des moyens énormes. Il y avait plein de, voilà, de petits freins comme ça. Où au bout d'un moment, bah, tu te dis, est-ce que c'est le bon moment? Puis il y a la sécurité, encore une fois, où tu te dis, bon, peut-être que là, comme beaucoup de jeunes, bah, dès que tu es diplômé, la première chose que tu fais, c'est de te trouver un job. Il y avait, voilà, ouais. Il y avait ce petit cumul de plein de choses qui faisait que bah, j'allais pas au bout. Et en fait, le fait de le poser à plat et de faire cette introspection, ce vrai travail sur moi-même, parce que c'est le cas de le dire, j'avais pas de croyances limitantes et de peur, bah, ça m'a permis de les identifier et surtout de les affronter, de m'apercevoir, bah, comme je l'ai déjà dit, que les peurs, finalement, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose dans la tête, et qu'une peur, en fait, existe pour être affrontée. Ça veut dire que on se fait toujours le scénario du pire, mais on omet souvent le scénario du meilleur. Et bien souvent, si les résultats attendus ne sont pas là, t'as au moins avancé, t'as affronté ces peurs. Mmh. Et en fait, j'ai compris ce système-là, et du coup, aujourd'hui, ces peurs-là, je les ai plus du tout. Par contre, ce qui est marrant, c'est que plus t'avances, plus tu découvres des nouvelles peurs.
Comme lesquelles, par exemple, maintenant, c'est quoi tes nouvelles
peurs? Ma peur, là, dernièrement, avant le confinement, c'était sur l'aspect financier. C'était ce côté où, bon, ok, pendant un an, deux ans, tu te payes pas, tu te dis, ok, ça va, mais bon, au bout d'un moment, tu vois, plus tu avances, plus tu dis, c'est une sécurité, en fait. Donc, cette peur-là, tu vois, elle était présente, et c'est d'ailleurs pour ça que, bah, pendant un moment, ça a duré, je crois, un mois ou deux mois, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je cherche un job à côté, essayer de jongler avec les deux. Et en fait, avec le confinement, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a remis les idées au clair et ça m'a dit non, Lina, t'es en train de te disperser là. Et en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, bah, s'il faut que je reste encore 6 mois, tu vois, après c'est possible de jongler, mais la dernière peur que j'ai vraiment identifiée, c'était celle-ci, c'était le fait de ne pas avoir de revenus. Parce que voilà, on a beau dire ce qu'on veut, enfin, c'est vrai que pendant l'entrepreneuriat, un des aspects aussi qu'on met pas souvent en avant, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ne se payent pas la première année. Après, il y en a qui réussissent à très bien gagner leur vie directement. Enfin, tu vois, il n'y a pas de schéma fixe là-dessus. Mais voilà, au bout d'un moment, tu dis, bon, c'est vrai que tu fais quelque chose qui te passionne, qui a du sens pour toi, mais c'est aussi important à côté, tu vois, de
vivre.
Exactement. Non, mais c'est vrai. Fin...
On va en reparler tout ça, de toutes ces peurs, justement. Et j'ai une question, peut-être que... Pour les personnes qui nous écoutent actuellement, qui ont plein d'idées comme toi, tu en avais, et qui fourmillent d'idées, mais qui n'arrivent pas à se lancer, qui ont toutes ces peurs, justement. Tu m'as dit que tu avais fait une introspection sur toi-même.
Ouais.
Est-ce que tu aurais des conseils de lecture ou des personnes qui t'auraient inspiré, des personnes, je ne sais pas si tu as fait, ou alors c'est une formation que tu as suivie en particulier qui t'a permis justement de mettre un doigt sur ces peurs. Enfin, qu'est-ce que tu as fait en fait pour les identifier et pour te permettre de te lancer, en fait, de te rassurer et de te lancer.
Alors, la première chose que j'ai faite, je me souviens, bah, c'était quand j'étais diplômée, je me disais, voilà, j'hésitais entre ces deux chemins-là et en fait, tout simplement, de peser le pour et le contre. Est-ce que vous préférez, enfin, tu vois, même le salariat, c'est pas forcément quelque chose de négatif en soi. C'est un choix, en fait, parce qu'il y a des personnes qui sont faites pour ça, qui aiment avoir un cadre, qui aiment, etc. Donc, le premier élément que j'avais fait, je me souviens, c'est que j'hésitais entre d'avancer sur cette voie-là, donc avoir une carrière professionnelle, et l'entrepreneuriat. Et en fait, j'avais pesé, si tu veux, le pour et le contre. C'est aussi simple que ça, enfin, tu vois, sur papier. Et après, l'introspection que j'avais faite, c'était vraiment de remonter, voilà, comme là, enfin, tu vois, ce que t'as un peu fait en début d'interview, de remonter à vraiment les premiers métiers, ce qui me passionnait quand j'étais plus jeune, puis qui est resté, pour vraiment identifier, en fait, moi, ce qui me, les éléments dans lesquels j'étais douée et qui, en même temps, me passionnaient. Et donc, il y avait toujours cet aspect créatif. Vraiment, c'est le truc qui est revenu dans tout ça. Et puis voilà, comme je te disais, il y avait le côté aussi où je voulais comprendre. Donc je me questionnais, je me disais, ok, pendant des années, j'avais des projets, j'avais mon carnet en fait de projets où dedans je mettais toutes les idées qui me passaient par la tête. Et je me disais, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche finalement de donner vie à ces projets-là? À partir de là, j'avais identifié ces peurs, ces croyances, et je m'étais dit, ok, comment faire pour les affronter. Alors, les croyances limitantes, ce qui est bien, c'est qu'en fait, une fois que tu les identifies, tu dois faire un travail sur toi-même. Et ça peut paraître peut-être abstrait, mais tu vois, une fois que tu identifies une croyance limitante, tu sais que cette croyance-là, c'est pas quelque chose de vrai, c'est quelque chose que tu as créé de par ton éducation, de par ton expérience de vie. Il suffit juste de le modifier, c'est-à-dire au quotidien, tu vois, de faire un petit travail du quotidien. Et les peurs, bah, comme je l'ai dit, c'est de les affronter. Et pour les affronter, bah, moi, quand j'avais la peur de me lancer, c'était de me lancer. C'est quoi? Non, mais ça paraît bête comme ça, mais plus tu réfléchis, moins tu fais les choses. La chose que j'ai compris vraiment, surtout que moi j'étais quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, et donc du coup j'ai remarqué que avant de se lancer, que tout soit parfait, que tout soit prêt, etc. Et ben non, en fait, il faut qu'une fois que t'es... Alors ça veut pas dire qu'il faut se lancer avec quelque chose de de pas du tout
de brouillon.
Exactement. Mais il faut pas attendre que ce soit parfait, parce que sinon tu le feras jamais. Et même encore dernièrement, quand j'ai commencé mes vidéos YouTube et tout, pour moi en fait une des clés du succès, de réussite, de se lancer, etc., c'est de le faire, enfin, de ne pas trop réfléchir, en fait. Et je vois les gens qui sont productifs, qui, c'est des gens, en fait, qui passent pas 10 ans sur le papier et qui passent à l'action. Et moi, mon erreur, c'était de rester beaucoup dans la conceptualisation. Alors, le truc est sur le papier, il était carré et tout, mais une fois le passage à l'action, tu vois, c'était beaucoup plus difficile à mettre en place. Et donc aujourd'hui, maintenant, je fonctionne plus comme ça. C'est-à-dire que je me dis, OK, une fois que j'atteins un format qui soit acceptable dans tout ce que je fais, je me lance. Et je pense que c'est le conseil que j'aimerais donner, parce que pour moi, ça a été ça l'élément vraiment que j'ai identifié, où je me suis dit, OK, c'est ça la nuance qui fait que tu vas te lancer ou pas.
Je pense que ça fera écho à beaucoup de personnes. Il y a quelque chose que tu m'as raconté la semaine dernière et que dans la même veine un peu, j'aimerais que tu nous partages, c'est un peu ton expérience d'auto-édition, pas de A à Z, mais justement la partie où tu cherchais les fonds, donc de crowdfunding. Ouais. Et comme tu démarrais, enfin voilà, je te vais te laisser expliquer, mais ça c'est aussi quelque chose, je pense, où tu avais beaucoup réfléchi, où tu avais beaucoup peur. Et je trouvais ça intéressant de le partager avec nos auditeurs.
Quand j'ai voulu publier mon roman, forcément, je me suis orientée sur la voie de l'auto-édition, par choix aussi. Parce que souvent les gens pensent que c'est par dépit. Honnêtement, j'avais été refusée, je crois, de 2 maisons d'édition. Mais après, je m'étais dit, au lieu d'attendre, voilà, autant se lancer. Et en fait, ce qui s'est passé, voilà, c'est que pour pouvoir financer ce projet, je me disais, OK, il y a plusieurs. Justement, tu vois, c'est là où une des peurs, justement, le fait de ne pas avoir de financement, tu dis comment tu fais et tout. Mais en fait, aujourd'hui, il existe tellement de moyens différents. Tu peux te lancer aujourd'hui à partir de rien, en fait. Et donc, j'ai lancé cette campagne de crowdfunding. Et ce qui s'est passé, c'est que au début, t'hésites, t'as peur, parce que t'as peur de déranger. Enfin, tu vois, la campagne de crowdfunding, c'est particulier, tu vois. Tu t'envoies un message aux gens, s'ils peuvent contribuer, s'ils peuvent partager, etc. Et au début, justement, t'as cette peur où t'oses pas trop déranger les gens, où t'as pas envie de leur demander... Ouais. C'est, tu vois, c'est quand même présent, hein. C'est quelque chose qui était quand même ancré. Et en fait, je me suis dit, si tu le fais pas, enfin voilà, au pire, les gens, s'ils veulent pas participer, ils participent pas, quoi. Tu les forces pas. Mais ce qui est important, c'est d'oser. C'est encore un des points, comme tu l'as souligné, qui est très présent, notamment chez les femmes, plus que chez les hommes. Tu vois, c'est beaucoup lié aussi à comment on a grandi. C'est-à-dire, nous, les jeunes filles, quand on était enfant, c'était beaucoup la petite fille modèle qui doit faire les choses bien, tout doit être carré, etc. Alors que les garçons, ils jouaient dans la boue, ils respectaient pas les règles, ils fondaient un peu, mais tu vois. Et ça, en fait, c'est des formats qui, en grandissant, restent ancrés. Le côté où nous on veut que tout soit parfait avant de se lancer, on veut pas trop déranger les gens, etc., tu vois. Et en fait non, au contraire, il faut aller sauter dans la boue, tu vois. Et donc du coup, ce qui s'est passé, voilà, c'est que j'étais surprise, parce qu'en fait voilà, pour cette campagne de crowdfunding, pour moi c'était vraiment le moment de lancement qui disait OK, maintenant tu fonces, quoi. Et donc j'avais envoyé, je me souviens, des emails, mais à tout, j'ai vraiment sollicité tout mon réseau, que ce soit mon réseau proche mais aussi professionnel, enfin tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été agréablement surprise, parce que j'ai eu beaucoup de soutien, en fait, que ce soit les associations dans lesquelles j'ai fait partie, que ce soit mes proches, même mes camarades de promo, tu vois, qui ont tous partagé et tout. Et en fait, c'est ce côté, enfin vraiment, pour le coup, tu vois, je m'y attendais pas, honnêtement. Et ça, en fait, tu vois, déjà, ça m'a fait plaisir, parce que je me disais, mais en fait, encore une fois, les peurs, c'est dans la tête et tout. Et voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, après, c'était vraiment du travail quotidien. La campagne de crowdfunding, c'est quelque chose, si pendant une journée, tu travailles pas, tu communiques pas dessus, etc., il se passe rien, tu vois. Ouais. Mais honnêtement, j'ai été, surprise de manière positive, parce que je me disais, en même temps, je me disais, bon, il y a plein de gens qui se sont lancés comme ça, pourquoi pas moi ? Et c'est comme ça, du coup, que j'ai lancé ma campagne, que ça a été relayé, tu vois, mon ancienne école l'avait partagé, mais aussi les associations dont j'ai fait partie l'ont partagé, enfin voilà, mon réseau et tout. Et au final, j'étais surprise, mais très positivement, c'était un gros travail, mais on l'a atteint. Et il y avait ce côté, bah, au final, voilà, où j'ai affronté une de mes peurs. C'était vraiment ce côté d'oser, tu vois, de foncer, en fait. Moi, le truc que je dis toujours, c'est à partir du moment où tu es en cohérence avec tes valeurs, tu vois, qu'il y a un alignement intérieur, il faut y aller.
Ouais.
C'est hyper important. Et au final, voilà, les gens reçoivent un email, ils voient, enfin, voilà, s'ils veulent pas participer, ils zappent et puis c'est tout. Et puis à l'inverse, t'as ceux qui t'apportent leur soutien, qui au contraire t'encouragent, parce que bah, soit ils ont pas l'habitude de voir des personnes qui se lancent, que ce soit dans l'auto-édition ou tu vois, le côté se lancer dans ses projets. Et voilà, ça inspire aussi, c'est un moment un peu de partage, donc...
Non, mais moi, je trouvais que c'était une histoire intéressante, justement, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent écouter, qui doivent justement se dire pourquoi pas moi. Et moi, j'avais beaucoup aimé la façon dont tu l'avais raconté, parce que je pense que bon, on a tous ce questionnement, on a tous cette peur de déranger.
Ouais.
Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as mentionné à plusieurs reprises, c'est ton carnet de projet. Là, on va parler un peu plus outils, mais je trouvais ça justement intéressant. Alors, mais peut-être que c'est une façon dont tu fonctionnes, je sais pas, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu?
En fait, mon carnet de projet, c'était quoi? C'était simple, c'était depuis, bah, comme je te l'ai dit, j'étais jeune. Et en fait, j'avais ce carnet où dedans, dès que j'avais des idées, que ce soit d'objet design, tu vois, de stylisme, enfin vraiment dans le côté un peu artistique et tout, je gribouillonnais dedans. Donc, je mettais, enfin vraiment, tu vois, toutes mes idées. Et aujourd'hui, bon, j'utilise plus le bullet journal, où j'ai une partie un peu brainstorming. Mais ça, je l'ai gardé pendant très très longtemps, je crois pendant presque 10 ans, où vraiment, tu vois, à chaque fois, j'avais des nouveaux carnets où dedans, bah, je gribouillais. En fait, j'ai plein d'idées qui me passent par la tête. Alors, il y a des trucs un peu utopiques, si je puis dire. Tu vois, des concepts, enfin voilà, un peu fun et tout. Mais il y a d'autres projets qui étaient plus vraiment sur ce côté de créer, en fait. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, c'est pour ça. Ça semble abstrait quand on parle de créativité, parce que je me cantonne pas à un seul domaine, mais il y a ce côté où, bah voilà, d'imaginer, concevoir dans des domaines totalement différents, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup.
Ok, non, mais c'est très intéressant de savoir comment tu fonctionnes et tout. Enfin, je trouve ça assez... parce que j'ai l'impression que tu as une créativité assez folle et, voilà, et délirante, et justement... comment tu canalises tes idées. Tout à l'heure, alors moi, il y a deux points que je voudrais revenir. Quoi, le choix de l'entrepreneuriat, il fait sens avec ta façon d'être, de vivre. Mais voilà, tu parlais aussi du salariat. Pourquoi tu n'as pas, parce qu'on s'est connus dans une activité professionnelle commune, mais pourquoi tu n'as pas continué la voie du salariat, en fait? Est-ce qu'il y a une raison derrière ça, ou est-ce que l'appel de l'entrepreneuriat était trop fort pour toi, en fait?
C'est un peu ça. Ce qui s'est passé, c'est que donc, une fois que j'étais diplômée, j'ai travaillé, j'ai fait une mission de conseil. Et en fait, après ça, j'ai eu un vrai déclic, tu vois. C'était parce que c'était une mission, tu vois, vraiment intensive et tout. Et déjà que j'étais dans une phase de questionnement, voilà, où comme je t'ai dit, intérieurement, même si j'avançais dans le salariat, j'avais toujours cet appel artistique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, à la fin de cette mission, ça tombait pile au bon moment. Avec une pote, on est parti en road trip en Asie du Sud-Est. Ça a été un voyage, si tu veux, un peu connaissance de soi, introspection, faire un point sur sa vie, tu vois. Parce qu'une fois que tu finis tes études, on dit souvent, voilà, quand je finirai mes études, je verrai ce que je ferai, oui. Etc. Et là, je pense que t'es tombé au bon moment. Et en fait, le salariat, bah voilà, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, si je me concentre pas sur mes projets, jongler avec les deux au début, pour moi, c'était pas envisageable. Et voilà, l'appel de l'entrepreneuriat, en fait, il est venu à ce moment-là, et je me suis dit, ok, maintenant, tu fonces, tu te poses plus de questions, tu vas au bout, et tu verras le résultat. Et tu vois, c'est ce qui s'est passé. Ça n'empêche pas, comme je te l'ai dit un peu dans l'interview, que j'ai des moments où, effectivement, en fait, ce qu'il faut comprendre entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est que il n'y a pas de schéma fixe. Ça veut dire que tu as des gens qui combinent les deux. Ils sont salariés en entreprise, et à côté, ils développent leur petite boîte, tu vois. Tu as des gens qui sont à fond entrepreneuriat et tu as des gens qui sont à fond salariat. Il n'y a pas de schéma fixe. Ça veut dire que c'est pas parce qu'une personne ne fait pas d'entrepreneuriat qu'elle n'est pas, qu'elle est pas intéressante, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup ce schéma de « ouais, si tu fais pas d'entrepreneuriat, voilà, quoi ». Et à l'inverse, le salariat, si tu veux, pour moi, c'est plus le schéma sécuritaire, notamment quand t'es parent, parce que bah, t'as un cadre. Et ce cadre, bah, y a des personnes qui ont besoin de l'avoir. T'as un environnement de travail extérieur où tous les jours, tu vois tes collègues. Donc, tu sais que tu travailles de telle heure à telle heure. En même temps, et comme je l'ai dit, il y a la sécurité financière où tu sais qu'à la fin du mois, il y a ton salaire qui tombe. Alors que l'entrepreneuriat, c'est un peu, tu te lances, t'es un peu un aventurier, quoi. Tu te lances dans l'inconnu. Tu sais même pas si tu vas gagner ta vie avec ça. Bon, après, même si tu développes des modèles économiques, tu connais jamais, enfin, les résultats exacts. Mais en même temps, il y a ce côté un peu accomplissement personnel, en fait, qui était super fort, qui me faisait dire, en fait, t'es faite pour créer. Je parlais de quelque chose. Ouais. Moi, il y a toujours eu ce côté où, bah, peut-être que ma vie serait, enfin, en tout cas, sur le plan professionnel, se résume à conceptualiser et à créer, tu vois.
Ça rejoint une question justement que je voulais te poser. Tout à l'heure, tu mentionnais au début que en fait, l'entrepreneuriat n'est pas forcément pour tout le monde. Ouais. Est-ce que tu peux aller plus loin, même si tu l'as déjà un peu évoqué ici? C'est pour toi, quel type de personnes sont faites pour l'entrepreneuriat? Quelles sont les caractéristiques clés ou qu'il faudrait...
Ben, justement, le truc que j'ai compris, c'est que tu n'as pas de schéma fixe. Enfin, tu sais, aujourd'hui, tu le vois sur Internet, tu as des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat dans tellement de domaines différents et qui ont des personnalités tellement opposées qu'il n'y a pas de schéma fixe. En fait, la question qu'il faut juste se poser, c'est aujourd'hui de quoi j'ai envie. Est-ce que j'ai envie de sortir de ma zone de confort et d'essayer quelque chose de nouveau? Et donc, peut-être qu'on a un projet qui nous trotte dans la tête, peut-être que certains veulent faire une reconversion professionnelle, peut-être que d'autres veulent devenir coach, peut-être, tu vois, il y a ce questionnement-là, en fait. Ou est-ce qu'au contraire, bah, justement, je suis dans une situation où bah, je commence à avoir une stabilité dans ma vie, j'aimerais travailler dans le salariat, rester dans le salariat parce que il y a ce côté sécuritaire qui, moi, me convient. Enfin, c'est vraiment, en fait, en fonction des personnes. Mais ce que j'invite à faire, c'est vraiment se questionner sur aujourd'hui, j'ai envie de quoi? Est-ce que, voilà, j'ai envie de me lancer dans l'aventure, un peu un saut en parachute, quoi? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai plutôt envie de monter sur mon petit bateau et puis de suivre le courant? Il n'y a pas de ça, c'est mieux, ça, c'est moins bien. C'est vraiment en fonction de chacun.
Et justement, toi, tu as fait le choix de l'entrepreneuriat. Ouais. Tu me disais tout à l'heure comme quoi c'était aussi quelque chose, parce que voilà, tu fais beaucoup de choses pour aider les jeunes, pour tacler un peu les inégalités qu'il peut y avoir sociales. Tu disais l'entrepreneuriat, c'est une façon pour toi de créer, mais est-ce qu'au final, c'est pas non plus aussi pour trouver une espèce de quête de sens de ton travail, à l'inverse du salariat, qui ne te permettait pas de t'accomplir de cette façon?
Non, c'est très très juste ce que tu viens de souligner. C'est clair. Enfin, vraiment, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, le salarié, en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment butée dans ce côté un peu ambition. Tu vois, comme je disais, travailler dans une multinationale, à l'international et tout. Et certes, ça m'animait parce qu'il y avait ce côté aussi comprendre le monde de l'entreprise. Mais il manquait ce côté. En fait, si tu veux, pour reprendre un schéma un peu métaphorique. T'es comme un triangle et tu vois, t'essaies de rentrer dans un rond, dans un cercle, tu vois. Ça passe pas. Et en fait, avec du recul, je me rendais compte que, bah, effectivement, c'est vrai que j'étais... J'essayais ma patte parce que, voilà, quand t'es dans le salariat, en fait, t'es cantonné à ton métier, entre guillemets. C'est-à-dire que t'as des missions précises. Alors que moi, j'étais quelqu'un où vraiment, je m'intéresse à tout. Le point négatif, c'est que parfois, on se disperse. Mais le point positif, c'est qu'effectivement, j'avais cette curiosité de pas me cantonner à un seul truc. Et en fait, c'est ça qui a fait que, bah, justement, je me disais, bah, l'entrepreneuriat, en fait, c'est vraiment fait pour moi. Parce que, bah, si tu veux, ça repose sur tes épaules. C'est-à-dire que c'est toi qui gères tout. Donc, t'es responsable. T'es autonome, t'es autodidacte, donc tu dois apprendre de toi-même, tu dois te former pour comprendre, tu vois, un peu vision 360 degrés d'une entreprise, finalement. Et tu vois, c'était ce que je retrouvais pas dans le salariat, où effectivement, j'avais des missions très précises, où t'es cantonné à ton poste. Alors, c'est assez drôle, parce que dans mes différents postes, par moment, j'essayais d'inclure ma petite touche de créativité. Mais c'est vrai que c'était pas le cœur de mon travail, et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait sens, c'est de me dire ben en fait fonce dans l'entrepreneuriat, c'est plus fait pour toi. Et effectivement, la quête de sens, il y a, comme je l'ai dit, moi, pour moi, c'est important dans chaque projet. Il y a la partie égoïste où il y a l'accomplissement personnel. Pourquoi tu le fais pour toi? Enfin, quelle est la raison personnelle qui t'amène à lancer ce projet? Et en même temps, je trouve ça hyper important qu'il y ait un impact positif pour les autres. Comme je l'ai dit, l'accès à la culture, l'éducation, etc. Après, tu sais, c'est beaucoup lié aussi à notre expérience de vie. Moi, j'ai fait beaucoup de constats. sur les inégalités, effectivement, quand tu sais, il y a toujours un décalage quand tu dis les choses et quand tu les vis. Enfin, quand je dis quand tu les vis, c'est vraiment quand tu les observes de tes yeux. Et en fait, moi, ça, pour moi, tu vois, par exemple, le fait que, bah, effectivement, l'école aujourd'hui, c'est totalement, le système scolaire, il est totalement obsolète. Alors, même si on continue d'apprendre des choses à l'école, c'est pas du tout adapté pour les nouvelles générations. Et c'est ce qui fait que, bah, plein de jeunes décrochent, que plein de jeunes n'arrivent pas à trouver leur voie, qui est finalement ces problèmes-là. Et pour moi, en fait, mon programme, je l'ai créé parce que c'est des constats que j'ai faits qui me font écho par rapport à des camarades de classe qui avaient un potentiel de ouf quelques années plus tard, tu vois, qui galèrent encore à trouver leur voie et tout. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait dire, bah, en fait, essaie de transmettre, moi, ce que j'ai appris, tu vois. J'ai trouvé ça hyper important de le faire sous un format qui, tu vois, comme je te disais, les méthodes un peu Montessori, donc c'est des méthodes pédagogiques un peu innovantes. Bon, même si moi, c'est pas du Montessori à proprement parler ou du Freinet, hein, c'est vraiment basé sur mon expérience personnelle et de le transmettre pour que justement ça puisse faire écho à des jeunes parce que tout simplement, lorsque j'avais leur âge, j'aurais aimé avoir, voilà, ces conseils-là pour justement me questionner, tu vois, ce qui fut finalement mes questions là à 25 ans, de 10 ans plus tard, de leur transmettre déjà dès leur âge pour qu'ils puissent déjà avoir on va dire une base de réflexion qui leur permette d'ouvrir leur champ des possibles, tu vois.
En parlant de ça, du coup, parce que tu nous as parlé de ta formation, qui est un peu la deuxième grande étape après ton livre dans ton métier de slasheuse, comment tu présenterais, comment tu décrirais, en fait, la transition que tu as eue, en fait, parce que tu as eu le livre. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été un long chemin difficile pour toi? Comment tu le décrirais?
En fait, c'est pas facile. Honnêtement, enfin, tu vois, moi, je dis toujours tout ni tout blanc ni tout noir. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des aspects positifs parce qu'effectivement, ce que j'ai acquis là en 2 ans d'entrepreneuriat, honnêtement, pour moi, c'est l'équivalent de 5 ans pour un employé lambda, tu vois, d'une entreprise parce qu'en fait, t'es voué à toi-même finalement, tu vois, t'apprends toi-même et c'est que ça l'entrepreneuriat. C'est tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Tu marches, tu fais 3 pas, tu tombes, tu te relèves, tu vois. Du coup, ça te demande des... Non, mais c'est vrai, ça te demande des efforts, ça te demande de faire face à des situations que bah, peut-être dans le salariat, t'aurais peut-être pas eu, en tout cas de cette manière-là. La transition, en fait, elle s'est faite progressivement. Mais comme je t'ai dit, il y a eu un vrai déclic mental après cette introspection où... Enfin, surtout le voyage, tu vois, ça m'a vraiment permis de me ressourcer et de me recentrer sur l'essentiel pour moi dans ma vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, comme je te l'ai dit pour les peurs, c'est de l'abstrait, enfin, vraiment, c'est du conditionnement, tu vois. Mais à partir de là, du coup, quand j'ai commencé à avancer, ça a pris du temps. Donc, honnêtement, moi qui suis impatiente de base, ça m'a appris aussi à être patiente. Parce qu'effectivement, bah, tu fixes des dates, au final, tu te rends compte, même en bossant, bah, t'arrives pas à respecter ces dates, donc ça te met un peu de pression, t'as des moments de stress, enfin moi j'avais des moments où je bossais vraiment non-stop, parce que j'étais aussi même, tu vois, enfin, c'est tu te mets la pression toute seule, tu vois, mais finalement aujourd'hui, la chose que je retiens, c'est finalement la grosse évolution que j'ai faite sur moi-même, qui m'a beaucoup appris, et même sur le plan professionnel, ça m'apprend encore beaucoup, quand t'apprends à gérer un projet seul, enfin vraiment à lancer... Tu vois, même demain, si tu lances ton entreprise, etc., seul, forcément, t'es plus apte à faire face à même certaines situations dans la vie que, tu vois, enfin voilà, encore une fois, je retourne au salariat. Mais parce que, en fait, pour moi, le salariat, si tu veux, sur une forme un peu imagée, ça représente vraiment ce côté où t'es dans une case, tu vois. C'est pas péjoratif, hein, quand je dis. Parce que, tu vois, il pourrait que même à 35 ans ou même à 30 ans, je retourne dans le salariat. Hein. C'est un choix de vie. Mais j'ai vraiment constaté cet écart qu'il y avait avec l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, tu le vois, les entrepreneurs, c'est des gens, même si au niveau des traits de caractère, des traits de personnalité, c'est très différent, ils ont peut-être niaque, en fait, que ce soit lié à leur quête de sens ou à vraiment ce côté d'aller... au bout d'un projet.
Ouais, et je vois très bien l'image du salariat, même si c'est pas négatif, hein, comme tu le dis. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, salariat, c'est compliqué. Enfin, peut-être encore plus en France avec les entreprises qui ont peut-être aussi du mal à, à se rajeunir, entre guillemets, et à être peut-être plus un lieu d'environnement de travail adapté aux générations qui arrivent. Et ça, c'est un autre sujet, mais c'est aussi très, très intéressant parce que je pense qu'en fait, effectivement, si le salariat veut survivre, mais il survivra, bien sûr, mais je ne dis pas l'inverse, il a intérêt à se renouveler. Mais bon, ça, c'est autre chose.
Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire parce que, effectivement, pour moi, il y a une problématique aujourd'hui pour les entreprises. C'est qu'ils font beaucoup de communication, tu vois, sur leur image, on est comme ci, on est comme ça, mais une fois que t'es en interne, tu te rends compte que c'est pas du tout le cas, enfin, c'est vraiment juste de l'image, quoi. Mais en tout cas, si tu veux, pour moi, une entreprise qui est pérenne, c'est une entreprise qui s'adapte. Et effectivement, plus les structures sont grosses, plus c'est difficile de s'adapter, tu vois, aux nouvelles générations, aux nouveaux modes de consommation, etc. Mais le problème, c'est que les entreprises qui persistent, vraiment en se disant bon bah parce qu'aujourd'hui ça marche, demain ça marchera, le truc ils se rendent pas compte c'est qu'à côté bah ils perdent les meilleurs talents.
Ouais.
Que clairement bah les meilleurs talents après ils vont aller chez des entreprises à l'américaine, à la Google et tout, qui sont vachement en avance sur le, parce qu'ils ont compris finalement que le cadre, l'environnement de travail, enfin vraiment influencer vraiment beaucoup, que ce soit sur les performances ou sur le salarié, tu vois. Ouais. Et finalement quand t'es dans un cadre qui est hyper rigide, les gens, enfin surtout les nouvelles générations, moi je constate surtout ça, parce que les gens qui, tu vois, qui sont depuis 10-15 ans dans les entreprises, ils vont rester encore jusqu'à la retraite, tu vois.
Ouais.
S'ils ont la crise de la quarantaine, la fameuse crise de la quarantaine où ils vont se retrouver à faire un CAP pâtissier, mais en tout cas pour en revenir au sujet, les nouvelles générations aujourd'hui, c'est des générations, enfin en fait tant qu'ils n'ont pas compris la psychologie des nouvelles générations, enfin ce que j'entends par comprendre, c'est adapter leur entreprise aux nouvelles générations, ils foncent dans le mur, tu vois. Et ça veut pas dire que toutes les entreprises sont comme ça, mais aujourd'hui, tu vois, t'as le développement des entreprises un peu, comment on appelle ça, hybrides. C'est-à-dire des entreprises qui vraiment sont très jeunes, très adaptées. Ouais. Quand j'entends jeune, c'est le côté adapté vraiment au nouveau mode de fonctionnement, quoi. Qui cartonnent plus parce que, bah, justement, elles sont adaptées, en fait. Et l'adaptation, c'est fondamental. Et moi, je l'ai vu, enfin, des entreprises où vraiment c'est tellement rigide. Non seulement t'as pas envie de rester dedans, mais en plus de ça, tu vois des personnes qui foncent limite dans le burn-out, tu vois. Et ça, c'est des points qui sont hyper importants. Et tant que l'entreprise ne veut pas le comprendre parce que, bah, voilà, c'est comme ça et pas autrement, bah, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que peut-être aujourd'hui ça marche, mais que demain...
Je pense que nos générations ne veulent pas de ça, et c'est clair et net. Enfin, je vois tellement de profils, en fait, de gens qui se reconvertissent, qui ont nos âges, ou qui changent. Enfin, ça veut juste tout dire, c'est juste qu'on ne veut plus de ce schéma-là. Et que ça fait partie parmi une pile de choses et de raisons qui font que beaucoup claquent la porte ou décident de partir. Mais sur un autre thème, bien que voilà, lié un peu à l'entreprise ou à l'économie, qu'est-ce que le coronavirus, quel impact ça a eu sur ton activité, toi, actuellement ?
Alors, justement, tu vois, moi, je dis toujours, enfin, tout a une raison d'être. Et en fait, ça, tu vois, j'ai vu beaucoup de personnes... Alors ça, c'est intéressant parce que, tu vois, c'est là où c'est une question vraiment de perception. Beaucoup de personnes se plaindre au début, oh, c'est trop difficile, etc. Et en fait, pour moi, c'était comme un signe évident, tu vois, où la société se mettait en pause. Et tu vois, déjà, le fait que quand t'es dans l'entrepreneuriat, t'es un peu décalé par rapport au schéma classique. C'est-à-dire que les gens, tu vois, ils se lèvent le matin, ils vont bosser et tout. Toi, t'es là, tu bosses de chez toi, t'adaptes tes horaires, enfin... T'essaies d'avoir un cadre plus ou moins fixe, ce qui peut prendre du temps. Je te le cache pas, au début, ça m'a demandé beaucoup de temps à avoir un cadre bien défini. Mais en tout cas, par rapport à ça, ça m'a un peu mis, tu vois, en mode, moi, je voyais un peu la société là en stand-by, où au lieu que les gens courent, ils s'arrêtent tous et ils se ressentent sur l'essentiel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, au contraire, ça m'a été je sais pas si on peut dire favorable, parce que c'est une pandémie.
Non, je pense que tu peux le dire. Enfin, oui, c'est peut-être une crise, mais il y a beaucoup de personnes qui sont des business ou des gens qui peuvent le dire aussi. Enfin, je l'entends.
Voilà, bah en fait, moi, si tu veux, le truc où j'ai vraiment vu une différence, c'est qu'en fait, à partir de ça, j'ai eu une vraie hausse de productivité. Tu vois, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Enfin, au niveau organisation, j'étais hyper carrée et tout, que ce soit aussi bien sur le plan personnel et professionnel. À ce moment-là, en fait, si tu veux, l'équilibre de vie, il était respecté. Et ça, ça a été un vrai déclic, d'ailleurs, puisque, bah, comme je te l'ai souligné en début d'interview, j'ai eu un moment juste avant ça, plus vers janvier, je crois, janvier-février, où bah, j'avais cet appel sécuritaire où je me disais, bon, peut-être qu'il faut que je trouve un taf dans le conseil, tu vois, parce que c'était vraiment le domaine qui correspondait un peu à mes compétences. Au final, ça m'a remis les idées au clair. Et encore une fois, ça m'a fait le petit appel. Non, 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 Lina, tu te disperses. Recentre-toi sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, et à partir de là, bah voilà, ça m'a... Je me suis dit, OK, il faut que je me concentre vraiment sur toutes les choses que je dois faire. Parce qu'effectivement, c'est pas évident quand tu dois aller entre deux activités. Ça, pour le coup, c'est un point qui demande pas mal d'organisation. Et même encore aujourd'hui, tu vois, j'essaie d'adapter mon organisation à ça. C'est mieux qu'hier, mais c'est pas encore efficient, en tout cas à 100%. Et donc voilà, donc moi, ouais, non, ça m'a été très productif. Enfin, pour le coup, c'est vraiment le constat que j'ai fait. C'est-à-dire que là, en 2 mois, j'ai beaucoup avancé. Ça m'a permis finalement de me recentrer, tu vois, sur l'essentiel, c'est-à-dire vraiment mes projets et de faire que ça, quoi.
C'est favorable pour ton, ouais, pour un entrepreneur de prendre le temps de poser, forcément. Il y a aussi une juste mesure. Et on va bientôt terminer le podcast, mais avant ça, je voudrais savoir, est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter si tu as des projets futurs à venir pour toi, à nous
Oui, avec plaisir. Bah, déjà, là, il y a le format e-book de mon roman qui va sortir. Après, il y a le tome 2, parce que je sais qu'il est attendu. Donc, du coup, il faut avancer... J'ai prévu cet été de bien avancer dessus. Peut-être une prochaine campagne de crowdfunding pour le tome 2. Et donc voilà, après, il y a, comme j'ai dit, ma chaîne YouTube. J'ai lancé une chaîne YouTube orientée... Enfin, c'est vraiment des vidéos créatives, mais aussi motivation qui arrive. L'idée, voilà, c'est un peu ce que je fais à travers mes ateliers de savoir-être et de créativité, finalement, de transmettre ça. Parce que le format YouTube, j'aime beaucoup et je trouve ça beaucoup plus communicatif. Donc voilà, donc ça fait déjà de boulot. Après, les ateliers, c'est vrai qu'avec le confinement, les établissements scolaires, tout s'est un peu mis en stand-by. Donc, du coup, ça sera, je pense, à partir de la rentrée 2020.
Ouais, bah, j'espère pour toi, je te le souhaite. Hein. Je pense que ça marchera beaucoup. Et même si tu nous as donné pas mal de conseils, je sais pas si tu aurais un mot de la fin à nous donner aux auditeurs qui seraient toujours face à leur peur ou face à plein d'idées, mais qui n'oseraient pas se lancer. Voilà. Par rapport à l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu aimerais donner comme dernier conseil ?
Le dernier conseil, c'est vraiment si vous identifiez ce que vous avez envie de faire. Le pourquoi aussi, c'est très important parce que c'est ce qui va vous motiver lorsque vous serez en phase de difficulté ou de phase un peu de découragement, de vous rappeler pourquoi vous le faites et vraiment de foncer. Enfin, c'est vraiment général dit comme ça, mais... Une fois que vous le faites, vous apercevrez vraiment que c'est tout ça, c'est dans la tête en fait. Donc moi, vraiment, le conseil que j'ai à dire, c'est une fois que vous finissez ce podcast, de foncer, c'est-à-dire de commencer ce soir avec une action sur un de vos projets qui vous permettrait de faire un pas en avant.
Bah, merci Lina, je vais foncer sur ce coup. Merci beaucoup et puis à bientôt.
Bah, merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, dont Twitter, @ledéclicpodcast, et Instagram, @le.déclic.podcast, et à partager le podcast autour de vous. Prenez soin de vous, et à bientôt pour un prochain rendez-vous.